dit, enlève tes chaussures, la terre sur laquelle tu te tiens est une terre sainte. C'est la seule occurrence dans la Torah où on parle d'une terre qui soit sainte. Et comme vous savez, cette terre-là, c'était la terre du Sinaï. C'était pas du tout en Eretz Israël. Et il était quasiment au Sinaï. Et alors Hachem lui a dit, voilà, tu vas aller parler au Bnei Israël, parler à Paro, tu vas sortir, je vais faire sortir les Bnei Israël d'Égypte, de leur esclavage, et c'est toi qui vas être l'intermédiaire. Alors, comme vous savez, Moshe a résisté, etc. Et finalement, à un moment donné, il voulait dire que les Bnei Israël, ils vont pas me croire. Et alors, finalement, Hachem lui a dit, Vezelecha haot ki anochi shlachticha beotiacha et ha'am ta'avdu et ha'elokim al ha'ar hazeh. Je te donne un signe qui montre que c'est vrai, que je t'envoie, mais ça ne se verra qu'après coup, en fait. C'est que quand tu auras sorti les Bnei Israël d'Égypte, alors vous allez servir Elohim sur cette montagne, c'est-à-dire sur le Sinaï. Le Rambam dans Ilchot Yesodé HaTorah, c'est un texte sur lequel le Meshech Chochma a dit que c'est clair que dans ce texte-là que le Rambam a écrit, il était inspiré, il y avait sûrement Ruach HaKodesh. Pourquoi? Parce qu'il a dit, Moshe Rabbeinu a dit, que les Bnei Israël, en fait, c'est pas Moshe qui l'a dit, c'est le Rambam dit que les Bnei Israël ont fait confiance à Moshe, pas du tout parce qu'il a fait des miracles, il a fait des signes, pas du tout. Pourquoi c'est pas basé sur les signes? Parce que quand quelqu'un fait confiance à cause des signes, dit Rambam, alors, en vérité, ce n'est pas une confiance complète. Il appelle ça dophi, c'est-à-dire que il y a une ambiguïté. C'est peut-être oui et peut-être non. C'est pas sûr qu'on peut faire vraiment confiance à ces signes-là. C'est-à-dire qu'il reste, on fait confiance, mais il reste un petit doute. Et c'est ce que Moshe Rabbeinu a dit. Que la émouna qu'ils auront en moi, ce ne sera pas une vraie émouna, ce n'est pas une vraie confiance. Ils ne me croiront pas quand je viendrai leur raconter ce que tu me dis de leur dire. Pourquoi? Parce que, en fait, même les miracles qu'on va faire, ce n'est pas une preuve. Là-dessus, Akadosh Baruch Hu lui a répondu. La vraie preuve, le vrai signe, c'est celui-là. C'est qu'après la sortie d'Égypte, 50 jours après, vous allez servir Hachem, servir Elohim, c'est écrit, Tavdu et Elohim al Haarazé, sur cette montagne. Voilà. Et donc les Bnei Israël, au Sinaï, ils verront bien que je te parle, que tu es mon envoyé. Et la question qui se pose, évidemment, c'est que pourquoi est-ce que, alors qu'on est en de quoi on parle? On parle de Kabbalat HaTorah, de la réception de la Torah qui aura lieu au Sinaï. Pourquoi c'est appelé Avoda? C'est pas, on n'aurait pas dû dire Avoda, on aurait dû dire Kabbalat Torah, pas Avoda. Ta'avdoun, c'est Avoda. Cette histoire des signes, des otot, des miracles, après Moshe, il va y avoir d'autres prophètes. Il y en avait eu avant lui, Noé était prophète, il y en avait avant lui et il y en aura après lui. Mais les prophètes qui vont venir après Moshe, en vérité, on va leur demander pour les accepter comme prophètes, on va leur demander de produire des otot. Ils vont devoir faire des petites choses miraculeuses. Sauf qu'on va pas on va pas leur faire confiance uniquement à cause de ça, mais on va demander cela. Parce que la raison pour laquelle on fait confiance à un prophète, pourquoi on a fait confiance au prophète? Pitom, il est venu, il a dit, je suis prophète. On a dit, tu peux me faire de quelques miracles là? Oui, je fais des miracles. Ok, tu es prophète. On l'a cru. On le croit parce qu'il y a un passouk dans la Torah qui dit, c'est un passouk dans Sefer Dvarim, qui dit, Elav Tishmeoun, lui, vous l'écouterez. La Torah, elle parle du faux prophète qu'il ne faut pas écouter, et après, elle parle, elle dit, lui, vous allez l'écouter. Ça veut dire quoi? Pourquoi on va l'écouter? Lui, on va l'écouter parce qu'en réalité, la raison pour laquelle lui, on l'écoute, c'est parce que quand quelqu'un se présente et que il se présente comme prophète, qui est-ce qui va l'accepter comme tel? Les prophètes de la génération d'avant. Ceux qui sont prophètes aujourd'hui, quand il y a un petit jeune qui est candidat à être prophète, on va lui demander, fais des signes, etc. Évidemment, ils vont l'interroger et tout, mais et eux vont l'accepter. Nous t'acceptons. Et parce que eux l'ont accepté, alors la génération doit l'accepter. Mais eux, qui leur a donné cette autorité pour accepter? Ben, la génération d'avant. Et si on remonte, on arrive où? On arrive à Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire qu'en fait, la raison pour laquelle on fait confiance à un prophète, c'est parce qu'il s'inscrit dans la chaîne des prophètes à partir de Moshe Rabbeinu. Et comme Hachem il a donné la façon dont on va convaincre les Bnei Israël de faire confiance à Moshe. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit au Sinaï, il a dit, moi, je vais te parler et je vais faire en sorte que les Bnei Israël entendent que je te parle. C'est-à-dire que dans les deux premières paroles des Aseret HaDibrot, les Bnei Israël étaient à un niveau de prophétie quasiment égal à celui de Moshe. Ils entendaient Hachem parler à Moshe. Donc, ils ont entendu, il leur parle. Donc, ils lui font confiance. Quand il vient, il dit Hachem me parle. Ben, c'était un fait qu'ils avaient constaté, donc ils le croyaient. Et c'est cette crédibilité qu'il a acquise, en fait, qui lui a donné l'autorité de transmettre la prophétie aux prophètes qui viennent après lui et de fil en aiguille. Enfin, de prophète en prophète, ça s'est transmis. Donc, il y a une chaîne, une shalchelet, comme il y a une chaîne de transmission dont on parle sur la Torah orale, dont on parle dans Pirkei Avot, Moshe Kibel Torah Misinaï, mais ça, il l'a transmise à Yoshua, etc. Il y a aussi une chaîne de transmission de la prophétie. Ultimement, la raison pour laquelle on écoute, on va obéir à ce que dit un prophète, c'est parce qu'en vérité, il s'autorise Enfin, il est autorisé par Moshe Rabbeinu. C'est une autorisation qu'Hachem a voulu donner. Hachem a dit, voilà, je vais faire quelque chose que Gambecha yaaminu leolam, de telle sorte qu'ils aient confiance, pas seulement en moi, dit Hachem, mais aussi en toi, et leolam, pour toujours. Comment leolam? Il ne vit pas Moshe. Non, leolam, c'est toute la chaîne. Toute la chaîne des prophètes. Les prophètes, non. Les Bnei Israël auront confiance dans leurs prophètes. Et, une prophète, et ça, quand est-ce que ce sera vraiment justifié? Quand les prophètes sont des prophètes reconnus dans la chaîne des prophètes. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas d'autres gens qui étaient prophètes, mais ils n'étaient pas reconnus. Quand, par exemple, tous les prophètes qui avaient, les faux prophètes qu'il y avait à l'époque de Irmia, à l'époque de Jérémie, c'était les gens qui étaient prophètes. Ils parlaient comme des prophètes. Peut-être ils s'imaginaient qu'ils avaient entendu. C'était pas tous des complètement menteurs. C'est peut-être des gens qui s'imaginent que Hachem m'a parlé. Aujourd'hui aussi, il y a des gens comme ça qui ils s'imaginent. Ça veut dire, je peux pas vous dire comment c'est quand Hachem parle. Je peux pas vous le dire. On ne peut pas comme ça dire ça. Mais ils sont pas appelés. Il n'y a pas faux prophètes. C'est les prophètes qui disent des mensonges. C'est-à-dire qu'ils n'ont rien reçu. Mais c'est pas obligatoirement des charlatans au sens où ils inventent de toutes pièces, conscients d'inventer. Il y a probablement des gens comme ça. Mais il y a aussi des gens qui sont persuadés que Hachem a parlé, mais ceux-là, ils n'ont pas été acceptés dans la chaîne des prophètes. Et donc, ceux-là, on n'a pas de mitzvah de les écouter. Maintenant, si toi, tu veux écouter quelqu'un, tu ne peux pas t'en empêcher. Tu écoutes n'importe quel charlatan. Ici, donc, il y a quelque chose de fondamental qui a lieu avec la sortie d'Égypte et le don de la Torah. On a déjà dit plusieurs fois que, en fait, la sortie d'Égypte, ce n'est pas quelque chose qui est terminé quand les Bnei Israël ne sont plus en Égypte, ne sont plus esclaves. Ça n'est pas non plus terminé après le passage de la mer. Ça ne sera terminé que quand les Bnei Israël auront accepté la Torah. Bon, ça veut dire que, en gros, on peut dire que le processus de sortie d'Égypte, il va durer 50 jours, jusqu'à Matan Torah. Et après, ça sera après, mais dans la suite de cela. Alors, il y a quelque chose de très important et très surprenant dans un Midrash Rabbah sur Kohelet. Sur l'Ecclésiaste, sur Kohelet, il y a un midrash qui dit que chez Akadosh Baruch Hu podé Israël, comme vous savez, on utilise souvent le verbe podé qui veut dire racheter. Akadosh Baruch Hu, il a en quelque sorte racheté les Bnei Israël à Paro. Ils étaient les esclaves de Paro. Et Hachem dit, j'ai été podé, j'ai racheté. C'est comme s'il avait payé à Paro. Bon, il n'a rien payé, il l'a obligé à les libérer, mais en fait, donc, c'est à considérer comme un pidyon. Pidyon, c'est quand on paye pour racheter. Comme dans Pidyon Aben, qui est le rachat de l'enfant premier-né. Alors le Midrash dit, lorsque HaKadosh Baruch Hu a été podé les Bnei Israël, alors, ou Nivda Imahen, il a été racheté en même temps qu'eux. D'où est-ce qu'on sait ça? Parce que c'est marqué dans le Passouk, justement, dans le Navi Shmuel, Alchu Elokim livdot lo la'am, v'lasum lo shem, asher padita lecha mimitzrayim, goyim ve'elokav. C'est-à-dire, gamken, si on peut parler comme ça, Akadosh Baruch Hu lui aussi, il s'est racheté au moment de la sortie d'Égypte. Alors cette idée-là, elle se trouve dans le principe qui est énoncé dans un passouk du Navi Yeshaya. Le Navi Yeshaya dit qu'Hachem s'adresse aux Bnei Israël, il leur dit Va'atem edai, le Gomer, va'ani kel. C'est-à-dire, et vous, vous êtes mes témoins, dit Hachem, et moi, je suis Dieu. Et la dracha de Chazal sur ce verset, c'est que chez En Atem Edai, si vous n'êtes pas mes témoins, donc si vous ne témoignez pas pour moi, alors, si on peut s'exprimer ainsi, je ne suis pas Dieu. Donc c'est énorme ici. C'est quelque chose d'un peu délicat que je voulais voir avec vous. Cette formulation, elle se retrouve à plusieurs endroits. Elle se retrouve en particulier dans ce que Chazal disent. Sur le passouk de la Shirat Hayam, Zekeli ve'anveu. Les Bnei Israël, quand ils se sont retrouvés de l'autre côté de la mer, ils ont chanté comme tout, Az Yashir Moshe ou Bnei Israël. Et dans ce texte-là, ils disent Zekeli, lui, c'est mon Dieu, et je vais l'embellir, disons. Anveu. Alors, Chazal explique, quand est-ce que il est beau, quand est-ce qu'il est embelli, c'est lorsque que chez Ani Modelo, quand moi je le reconnais. Donc il y a toute ici une explication que si je ne reconnais pas Hachem, alors Chazal dit, Areunae Bishmo. Le problème, c'est le suivant. Littéralement, ça veut dire, il est beau, mais pour lui-même. C'est avec qui il est? Il est avec son nom, si je ne le reconnais pas. C'est quelque chose dont on avait parlé au Shiur de Midrash déjà. Je fais une petite parenthèse pour rappeler ce qu'on a dit au Shiur de Midrash. Il y a deux sortes de royauté. Il y a la royauté qu'on appelle Malchut, qui donne le mot Melech, et il y a une royauté qui s'appelle Memshala, qui donne Moshel. Un Melech, c'est un roi qui est choisi, reconnu par ses sujets. Et un Moshel, c'est un tyran. Donc, quand Hachem, une des raisons qu'on apporte, c'est Hachem a créé le monde pour être reconnu comme Melech. Alors, quand on réfléchit, s'il veut être reconnu comme Melech, alors, d'une certaine manière, il se fragilise par rapport à ceux qui doivent le reconnaître. Parce que la reconnaissance, elle n'a de sens que si on peut dire non. Mais donc, il s'expose à ce que, éventuellement, les hommes disent non. On ne te veut pas comme roi. Lorsque les Bnei Israël ont manifesté la volonté d'avoir un roi, à l'époque du prophète Shmuel, Shmuel a essayé de les dissuader. Et Hachem a dit à. Parce qu'en fait, une des choses, une des façons de dire, c'est de dire qu'en vérité, Moshe, il était roi. Ce n'était pas un roi avec une cour, mais il était Melech. Yoshua, Shmuel aussi, il était roi. Sans cour, c'est la royauté. Mais c'est une royauté reconnue par les sujets. Les gens reconnaissaient, ils le voulaient lui comme roi. Et alors, Shmuel a. Quand les Bnei Israël ont demandé un roi, il leur a dit, mais vous n'avez pas besoin d'un roi, vous en avez un. Ils ont dit, non, mais nous, on veut un roi comme les Goïms. Alors il leur a dit, mais un roi comme les Goïms, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vous mettre des impôts et il va vous prendre vos enfants pour aller faire la guerre. Vous voulez ça? Oui, on veut un roi comme les Goïms. Alors Hachem a consolé en quelque sorte Shmuel. Il lui a dit, t'en fais pas, c'est pas toi qui ne veux pas le comme roi, c'est moi qui ne veux le pas. Hachem dit, a compris que quand les Bnei Israël disent qu'ils veulent un roi comme les Goïms, alors Hachem comprend qu'ils ne le veulent pas lui comme roi. Ils savent qu'il est le Moshel. C'est vrai que tu es plus fort, c'est toi qui diriges le monde, etc. Mais nous, le roi qu'on veut, c'est un roi comme les Goïms et dont on ne veut pas te reconnaître comme un roi. Quasiment comme toi, tu veux l'être, en quelque sorte. Et donc, il y a cette idée-là que Hachem veut être reconnu comme roi. Parce que s'il n'est pas reconnu comme roi, alors il n'est pas Melech. Un Melech sans sujet, il n'a pas de sujet, en quoi il est roi? Cette expression, ça veut dire il est roi avec son nom, c'est tout. Il est roi quand il se voit dans le miroir. Là, Majesté, c'est tout. Il n'y a personne, il n'a pas de sujet. Alors c'est ce qu'il dit, en fait. Quand est-ce qu'il est beau? Lorsque je le reconnais. Quand il dit Zékeli, c'est mon Dieu. Donc je le reconnais comme mon Dieu, comme mon roi. Ok, comment? Alors justement, c'est ça. Est-ce qu'on peut embellir le Créateur? Ça n'a pas de sens. Qu'est-ce qu'ils voulaient dire quand ils disent Zékeli ve'anvehu? Anvehu, ça veut dire je vais l'embellir. Comment on embellit? Alors ça veut dire Etnaé lefanav ve'mitzvot. Comment est-ce que je vais embellir? Parce que je vais m'embellir. Dans l'accomplissement des mitzvot, je vais m'acheter un beau loulav, je vais acheter un beau talit, je vais écrire un beau sefer Torah. C'est comme ça qu'on embellit Kveyachol Hashem. En d'autres termes, en le faisant exister dans le monde, c'est-à-dire je modifie ma conduite à cause de lui. Donc je le fais exister. Mais si je me conduis et que comme j'ai envie, et je ne modifie en rien ma conduite par rapport à lui, alors il n'existe pas. Il n'existe pas dans ma vie. Il est nulle part dans ma vie. Je vis sans référence à lui. Donc, quand le clan d'Israël fait confiance à Hachem, d'une certaine manière, il le fait exister. Alors, il faut pas, on n'est pas en train d'oublier que nous n'existons que parce qu'Hachem nous fait exister. Mais d'un autre côté, le faire exister comme il veut exister et pas comme Moshel, comme tyran, ça dépend de notre volonté. Et c'est ça qu'il dit, si vous êtes mes témoins, donc si vous témoignez de mon existence, comment est-ce qu'on en témoigne? En modifiant notre existence, en tenant compte de ses valeurs. Dans la Gemara, ça s'appelle Aide quium, des témoins qui font exister la chose. Par exemple, les témoins du mariage. Un homme rencontre une femme, il lui propose le mariage, elle accepte, il lui donne une bague, elle accepte la bague. Et en retour, elle lui donne l'exclusivité du mariage. D'accord? En fait, je me marie avec toi, je ne me marierai pas avec quelqu'un d'autre. Il fait ça, halakhiquement, il ne s'est absolument rien passé. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de témoin pour le voir. S'il n'y a pas de témoin, ça n'existe pas. On a besoin des témoins. C'est les témoins qui vont donner de la chair, en quelque sorte, à ce qui s'est passé. Ils vont en témoigner, ils vont le faire exister. Ils vont en parler, ils vont le raconter. Ça va entrer dans, ils vont écrire ça dans leur journal, etc. Donc, ils vont faire exister les choses. Ils vont donner, Kiyum, c'est donner la durée. La durée, c'est quelque chose qui est distinct de la vie. Le grand exemple de ça, c'est David Ameller. Le roi David, quand il est né, il devait naître, mais il n'avait pas de durée. C'est-à-dire, il serait né et il serait mort immédiatement. C'est Adam Harishon qui lui a donné 70 ans de sa vie. Adam, qui au lieu de vivre 1000 ans, il a vécu 930 ans, les 70 ans en question, il les a donnés à David. Et David a vécu, il a eu la durée, il avait de la vie, mais ça n'avait pas duré. La durée lui a été donnée par Adam. Et donc les Eidei Kiyum, c'est des Eidim qui font que ça dure. Il y a une réalité. Alors comment est-ce que ça dure dans le mariage, par exemple? Est-ce que c'est renouvelé en permanence? Ou bien est-ce que c'est fait une fois pour toutes? C'est une discussion halakhique, en fait. On raconte que c'était entre Reb Chaim Brisker et Reb Shimon Shkop, qui étaient des grands maîtres, ils avaient une machloket. Reb Shimon Shkop, il disait que le mariage, c'est un processus qui se renouvelle tout le temps. Reb Chaim disait non, que c'est un truc qui est fait une fois pour toutes. Mais on raconte que Reb Chaim était une fois invité chez Reb Shimon Shkop. Déjà tout le monde c'était tous des vieillards déjà. Et Reb Chaim a demandé qu'on appelle la Rebbessin, qu'on appelle Madame Shimon Shkop. Et quand elle est venue, il lui a dit Mazel Tov, ton mari, d'après ton mari, les Kiddushin, ça se renouvelle tout le temps. Il dit Mazel Tov. Donc, les Bnei Israël, en étant ma'aminim, en faisant confiance à Hachem, alors, ils le font exister dans le monde, d'une certaine manière. Ils sont aidés kiyum. Sinon, s'il n'y a pas de témoin, alors il est tout seul avec son nom, quoi. Alors, on a dit donc, la Emouna, la confiance en Hachem, c'est ce qui fait exister le créateur du monde dans le monde. Et par exemple, S'il y a une réalité qui s'appelle Triatametim, résurrection des morts, c'est parce que nous disons 3 fois par jour dans la Amida, on dit Nemanata la Chayot Metim, tu es fiable, on peut te faire confiance, tu vas ressusciter les morts. Et pourquoi ça existe? Parce que nous y croyons. Si nous ne le disons pas, alors on ne le voit pas. Ça veut dire que bien qu'il y ait la réalité de la mort dans le monde, il y a une autre réalité qui ne se voit pas de la même manière, mais qui existe parce que nous y croyons, parce que nous faisons confiance que Hachem va le faire. Et donc ça veut dire, nous disons ça au présent, Nemanata l'achayot metim, que maintenant tu le fais. C'est-à-dire, le processus de résurrection, ce n'est pas quelque chose qui aura lieu à la fin des temps. C'est quelque chose d'une certaine manière qui se produit en permanence. Le monde existe par la puissance, par le fait que nous avons confiance dans la puissance de la prière. C'est-à-dire, nous savons que la prière, elle veut générer l'éveil de ce qu'on appelle la volonté d'Hachem, de faire exister le monde, de donner au monde tout ce dont il a besoin. Il existe une prière, par exemple, dans laquelle il n'y a aucune demande, aucune demande, on ne demande rien du tout. Tout ce qu'il y a, c'est le fait que nous croyons à ce que nous disons. Ce sont les fameux Shlosh Esrei Midot de Rachamim, le Hachem, Hachem, Kel, Rachum, Hanoun. Dans ce texte, il n'y a aucune demande, on ne demande rien du tout. Mais c'est une prière. Cette prière, nous savons, parce qu'Hachem l'a dit à Moshe, que Hachem a dit à Moshe, quand il lui a donné les deuxièmes tables, quand il a pardonné le veau d'or, il m'a dit, quand les Bnei Israël fauteront, alors tu désigneras un shaliach tzibour, tu mettras son talit sur la tête, et il récitera les Shlosh Esrei Midot. Hachem, Hachem, Kel, Rachum. Et moi, je pardonnerai. Bon, alors c'est déjà un sujet en soi assez difficile. Mais bon, c'est ça qui est. C'est ce que nous faisons à Kippour, n'est-ce pas? À Kippour, qu'est-ce qu'on fait toute la journée? Alors, on fait les prières habituelles. Et le reste du temps, essentiellement, on fait comme tout Yom Tov, écrit à Torah, etc. Mais essentiellement, qu'est-ce qu'on fait toute la journée? On répète Hachem, Hachem, Kel Rachum Vechanoun. Qu'on ne peut pas se contenter de répéter seulement ça, alors différents moments où on récite cela, alors il y a des piyutim, on récite des textes, des poèmes, qui parlent de ce sujet-là, qui parlent de Yom Kippour, ou alors on raconte comment était Yom Kippour au Beth Amikdash. Mais l'essentiel, c'est la récitation de ce texte-là. Les Sfardim, durant Yom Kippour, ils le répètent pendant 26 fois. Nous, on n'est pas loin non plus de ça. Qu'est-ce qui se passe là simplement? On mentionne des louanges d'Hachem, quelque part, c'est comme si on faisait exister ces louanges. Elles étaient là potentiellement. Hachem, il est tout ça. Il se comporte de toute cette manière-là. Mais personne ne le dit. Quand on le dit, on le fait exister dans un certain monde, dans le monde de la parole. Quand nous disons cela, on génère en quelque sorte une façon de gouverner le monde selon le principe de Hanoun Verachoum. Au début, en tout cas, le Nachash, le fameux serpent qui a fait fauter Adam, il a instillé, on pourrait dire, une espèce de saleté fondamentale qui a fait qu'il y avait désormais dans le monde un certain flou, un certain brouillard. Et pour clarifier les choses, pour reclarifier notre confiance en Hachem, le seul moyen, c'est de passer par la Torah. Il n'y a pas d'autre moyen que d'en passer par la Torah. La Torah, c'est elle qui va ramener le monde dans sa configuration initiale, c'est-à-dire celle d'avant la faute d'Adam. Avant que Adam, par sa faute, ou le Nachash, si vous voulez directement, introduisent ce fameux dophi, cette ambiguïté, ce flou, ce safek qu'il y a. Et donc, dans la sortie d'Égypte, il y a cette condition qui a été annoncée. Comment est-ce qu'on va montrer que vraiment, c'est moi qui t'ai envoyé pour sortir les Bnei Israël d'Égypte? C'est 50 jours après, vous serez servir Hachem sur la montagne de Sinaï. Quand ils sont arrivés sur le Sinaï, la Zorama, cette saleté que le Nachash a, ce flou que le Nachash a instillé, a disparu, et par conséquent, ils sont redevenus immortels. Cette façon de restaurer la réalité d'une confiance absolue en Hachem, ça vient parce que Torah Hachem Tmima, la Torah d'Hachem, elle est entière, elle est complète. Il n'y a pas de doute, il n'y a absolument aucune ambiguïté. On dit Edut Hashem Ne'emana. Le témoignage, il est fidèle. C'est la raison pour laquelle Markimat Peti. C'est la raison pour laquelle même les idiots deviennent intelligents. C'est-à-dire, on comprend les choses deviennent tellement claires que même quelqu'un qui n'est pas très doué, il voit clair. C'est ça qui doit se produire. C'est-à-dire, on doit produire cette temimout, cette entière confiance dans le cœur. Et quand les Bnei Israël étaient au Sinaï, effectivement, alors Hachem a dit, ce qui va se passer, c'est que Gambecha yaaminu leolam. En toi aussi, ils vont croire, ils vont faire confiance pour toujours, comme on a dit. Il va y avoir une clarté de la confiance pour l'éternité. C'est-à-dire cette émouna du clan d'Israël en Hachem, ultimement, elle ne va pas disparaître. Et c'est ça, Ta'avdoun, vous allez servir Hachem sur la montagne. On parle toujours de la Torah. Mais ici, on parle de l'effet de la Torah qui va éliminer cette réalité qui s'était installée du Safek, du Dofi. C'est-à-dire, ça va. En même temps que la disparition de la Zohama, c'est pourquoi le terme Ta'avdoun et vous allez servir Hachem. Donc, quand Moshe Rabbeinu était à l'épisode du buisson ardent, une des choses qu'Hachem a enseignées à Moshe, ce sont les noms d'Hachem. Vous vous souvenez que Moshe a demandé à Hachem, il lui a dit, moi je vais venir leur parler, ils vont me demander, mais qui t'envoie? Alors, quel nom est-ce que tu veux que je donne, que je te donne comme mon voyant? Alors vous savez bien qu'Hachem a répondu, Eke Asher Eke, je serai qui je serai. Ça veut dire quoi? Alors Hachem a expliqué, ça veut dire, dis-leur, ô Bnei Israël, que je serai avec eux dans les exils ultérieurs. Comme je suis avec eux dans cet exil-là. Alors Moshe, il a dit non. Ça, je ne peux pas vendre. Je ne vais pas dire au Bnei Israël, écoutez, Rabotai, on va sortir d'Égypte, mais je vous rassure tout de suite, il y aura d'autres exils. Il y aura, Bo Hachem, d'autres exils, n'ayez pas peur. Je ne peux pas vendre une histoire pareille. Alors Hachem dit, alors tu leur diras seulement, je serai avec vous. C'est-à-dire ce nom divin, qui est le seul nom divin dont Hachem a dit c'est mon nom, en quelque sorte. Tu me demandes quel est mon nom, je te réponds. Ce nom-là, il n'apparaît plus jamais dans la Torah. C'est la seule occurrence de ce nom-là. Mais en même temps, probablement, Hachem a enseigné à Moshe Rabbeinu tous les noms divins. Mais on a déjà dit, qu'est-ce que c'est qu'un nom divin? Si vous voulez, quand quelqu'un a un nom, il y a une différence entre lui et son nom. Il y a là un golem, il y a quelqu'un là, et puis il a un nom. C'est deux choses, lui et son nom. Mais en fait, chez Hachem, il n'y a pas lui et son nom. Tout ça, c'est une seule et même chose. Il n'y a pas deux choses. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire qu'il y a toute une liste de noms avec une hiérarchie. Il y a des noms qu'on n'a pas le droit d'effacer si on s'est trompé. Il y a d'autres qu'on peut effacer. Alors, on a expliqué qu'évidemment, Hachem n'a pas de nom. Mais ce qu'on appelle des noms d'Hachem, c'est ça qui correspond à je serai qui je serai. Les noms d'Hachem, c'est des indications quant à la façon dont Hachem gouverne le monde. Et il y a des moments où Hachem gouverne le monde avec un chesed, des fois c'est plus de din, Des fois, c'est Hanoun, des fois, c'est Rachoum, des fois, c'est Erechapaïm, etc. Tout ça, ce sont des noms divins. C'est-à-dire, tout ça, ce sont des façons de gouverner le monde. Et donc, Hachem dit, mon nom, ça dépend de ce que je suis en train de faire. Ça dépend de la façon dont je gouverne le monde. Mais quelque part, ça veut dire Hachem, pour lui-même, il n'a pas de nom, parce qu'il n'en a pas besoin d'abord. Ici, on nous a enseigné donc le secret de tous les noms divins. Et ça fait partie de ce qu'Hachem a dit, j'ai été racheté. Je me suis racheté en même temps que l'Ibn Israël. C'est-à-dire, quand Hachem dit, Anochi Hachem Elokecha, Asher Hoseticha, Me'eretz Mitzrayim, et il nous dit que Amatan Torah sera clarifié complètement. L'Ibn Israël vont apprendre la Torah dans cette clarté, mais le commencement, tout commence avec la sortie d'Égypte elle-même. Et là, mon cher Rabbeinu a bien vu qu'il ne s'agit pas pour lui de le charger d'une prophétie comme les autres. La prophétie de mon cher Rabbeinu, elle est comparable à aucune autre prophétie. Au point que c'est très très difficile de comprendre comment Aaron et Myriam ont pu penser que leur prophétie était du même ordre que celle de Moshe Rabbeinu. C'est pour ça qu'ils lui ont fait des reproches. Ils ont dit, mais pourquoi il s'est séparé de sa femme? Nous, on ne s'est pas séparé de notre conjoint. Hachem lui dit, mais vous n'avez rien compris. Ça n'a absolument aucune comparaison. D'abord, la prophétie de Moshe, elle est devenue Torah. C'est la Torah, la prophétie de Moshe. La prophétie de personne d'autre n'est jamais devenue Torah. Ici, ça veut dire, il y a là dans ce processus de sortie d'Égypte, quelque chose justement de cette « je me suis aussi sorti d'Égypte ». C'est-à-dire, grâce à la sortie d'Égypte, c'est-à-dire la grâce à ce clan Israël, qu'Hachem va gouverner avec tous ses noms divins. Et donc, tous ces noms divins commençaient à exister. Ils étaient là, tous ces noms divins. Ils étaient dans la Torah. Le Ramban explique que la Torah, qui existait bien avant la création, puisque Hachem a regardé la Torah pour créer le monde. Qu'est-ce qu'il y avait dans la Torah que Hachem a regardé? C'était quoi la Torah avant la création? C'était une suite de lettres qui formaient des noms divins. Il n'y avait que des noms divins. Ce qui va devenir des anagot. À ce moment-là, c'était tellement haut que c'était des noms divins, je ne sais pas à quoi ça sert. Le monde a été créé avec des lettres, avec ces lettres-là. Et donc ces noms divins, ils ont commencé à exister dans le monde grâce à la sortie d'Égypte. Donc les noms d'Hachem existent. Hachem suis sorti d'Égypte aussi. Alors, bien entendu, que ces noms divins dans le monde ne peuvent pas être l'objet de quelque chose qui est douteux, qui n'est pas clair. C'est pas Yesh Bahem Dofi, comme dit Rambam. C'est ça la réponse à la question que mon cher abbé nous a posée. Tavdou et Elohim à la raser. C'est-à-dire la émouna, la confiance dans la Torah, elle va arriver à un niveau tel chez les Bnei Israël que les Bnei Israël vont sortir complètement de ce brouillard, de ce dofi, de ce safek, etc. La Torah d'Hachem, elle sera pour eux absolument tmima, entière, absolument aucun doute. Donc quand Moshe a dit, mais ils ne vont pas me croire, ils me l'ont yamin ou li, alors Akadosh Baruch Hu lui a montré le nachash. Il a dit, regarde, qu'est-ce qu'il y a dans ta main? C'est bâton. Il a dit, non, c'est un nachash. Pourquoi il lui a monté cette histoire? Qu'est-ce qu'il voulait lui dire avec cette histoire du Nakhash? Si toi, tu les soupçonnes de ne pas te faire confiance, alors tu es en train de les ramener dans les sphécotes, dans les doutes, tu les ramènes au moment de la faute d'Adam Arishon. Et d'une certaine manière, tu ne peux pas être mon chaliar si tu les ramènes. Parce qu'il faut justement en sortir complètement. L'esclavage, il est la suite de cette situation de safek, de doute, etc. Et alors, on le voit dans la halakha de la manière suivante. Dans Ilchot Melachim, dans les halachot des rois, Rambam rapporte que, comme vous savez, les Bnei Noach, ils ont sept mitzvot. C'est-à-dire, Adam Harishon avait reçu six mitzvot. Et Noach, quand il est sorti de l'arche, il en a reçu une nouvelle. Donc ça fait sept. C'est pour ça qu'on dit les Bnei Noach. Les descendants de Noé, eux, ils ont sept mitzvot. La mitzvah que Noé a reçue en plus, c'est ce qu'on appelle Ever Minachai. C'est l'interdit de manger de la viande qui est prélevée sur un animal qui n'est pas complètement mort. Un animal qui est encore un peu vivant. C'est-à-dire, on fait la shrita et la bête, elle a encore des soubresauts. Les goyim, ils n'ont pas le droit de prélever de la viande à ce moment-là. Donc, ils attendent qu'il y ait le calme plat. Nous, on a le droit. Parce que la shrita, elle permet Ever Minachai. Comme nous, on a tué d'une certaine manière, cette manière-là permet de manger de d'une bête dont on a fait la shrita. Donc, elle va mourir, elle a encore quelques soubresauts. En théorie, si on veut, on pourrait prendre de la viande à ce moment-là. Alors, les Bnei Noach, ils vont pratiquer. Disons, un Ben Noach qui veut faire les choses comme il doit les faire, il va pratiquer les sept mitzvot des Bnei Noach. Alors, il pourrait, par exemple, se dire, mais et pourquoi je pratiquerai les sept mitzvot? Pourrait dire, ben, je les pratique parce que mon père m'a dit que, etc. Et lui pourrait remonter jusqu'à Noach et dire, la raison pour laquelle j'obéis, ben, c'est parce que je m'inscris dans la chaîne qui remonte jusqu'à Noach. Noach, il a reçu l'ordre d'Hachem, donc pour lui c'était absolument clair. Et donc je le fais parce que Noach l'a fait, en quelque sorte. S'ils se conduisent seulement comme ça, alors ils sont ce qu'on appelle chassidei umot haolam. les pieux, les justes, parmi les peuples du monde. Mais il y a un degré plus élevé que celui-là, qui consiste à faire les, pour un noir, un ben noir, à faire les mitzvot, parce que Moshe Rabbeinu a reçu l'ordre d'enseigner aux Bnei Noirs qu'ils doivent respecter les sept mitzvot des Bnei Noirs. C'est-à-dire, d'une certaine manière, on va inscrire les sept mitzvot dans, si vous voulez, dans la Torah de Moshe. La Torah de Moshe est là. Un versant qui est pour les Bnei Israël et un versant pour les Bnei Noirs. Si les Bnei Noirs pratiquent les sept mitzvot en référence à ce qui est écrit dans la Torah, si vous voulez, par Moshe, alors ils sont guère toshav. Ça s'appelle, c'est un étranger résident, c'est-à-dire, qu'est-ce que ça change? Ça change que, à l'égard d'un étranger résident, donc c'est un goy, qui vit en Israël, qui respecte les sept mitzvot des Bnei Noirs et qui accepte que ce soit un tribunal juif qui le juge pour savoir s'il fait vraiment les mitzvot comme un Ben Noir. On ne lui demande pas de faire des mitzvot comme un juif. Mais tu vis comme un Ben Noir, mais on veut que ce soit un tribunal juif, c'est-à-dire qui va juger les choses un peu à la manière de Moshe, quoi, pour savoir comment tu comptes. Si c'est comme ça, alors un guer toshav, il bénéficie de quasiment toutes les lois sociales en faveur des Juifs par rapport aux Juifs. Toutes les obligations qu'on a d'aider et de, je sais pas, de lui rendre ce qu'il a perdu, de lui donner un coup de main, etc. Toutes ces lois sociales s'appliquent aussi à ces goyim qui vivent conformément à la loi, à leur loi, mais qui la font surveiller en quelque sorte par un tribunal de Bnei Israël. Et c'est ce qu'on a dit. C'est-à-dire, jusqu'à Moshe Rabbeinu, il y avait les prophètes. Je vous ai dit, Noach en était un. Mais la prophétie d'un prophète dans la version noachide, elle fait que aujourd'hui il y a un prophète qui dit comme ça, et demain il y a un autre prophète qui vient et qui dit le contraire, et qui va dire désormais, ben c'est, il faut faire comme moi je vous dis. Bien, entre prophète dans la version noire, ça marche comme ça. C'est-à-dire, c'est le dernier qui a parlé, on a vérifié que c'est un vrai prophète. On le suit, c'est lui qu'on va suivre. Chez nous, c'est pas comme ça. Chez nous, un prophète ne peut pas complètement annuler ce qu'a dit un prophète précédent. Il ne peut pas. C'est la raison pour laquelle on ne peut pas. Il n'y a pas de prophète qui puisse dire, Rabotai, mon cher Abénoui, vous avez enseigné ça, comme ça et comme ça, et moi, je vous dis autrement. Ça, ce n'est pas possible. Parce que la prophétie de mon cher Abénoui, elle est complètement parfaite, et donc on ne peut pas la modifier. C'est pour ça que le Rambam, dans les 13 Ikarim, il a son cette espèce d'ancien liste de dogmes, en quelque sorte, il a compté séparément la prophétie de Moshe et la prophétie des autres. Il y a la notion de prophétie et il y a la prophétie de Moshe. C'est autre chose. D'abord, la prophétie de Moshe, comme je vous ai dit, elle est devenue Torah. C'est la Torah. Il n'y a aucune autre prophétie qui devient Torah. La Torah, c'est la prophétie de Moshe. Donc c'est ça l'importance, si vous voulez, de cette phrase qui a été dite. Après coup, on verra bien. Les Bnei Israël vont bien voir que c'est moi qui t'ai envoyé sortir les Bnei Israël d'Égypte. Mais ça va être très très important que les Bnei Israël se rendent bien compte que Moshe n'est que l'envoyé d'Hachem pour sortir les Bnei Israël d'Égypte. Je vous ai dit, quand les Bnei Israël ont fait le veau d'or, ils ont dit, ils sont allés. Moshe n'est pas venu au moment où il pensait qu'il aurait dû être là. Ils se sont trompés. Bon. Immédiatement, ils sont allés chez Aaron et lui ont dit, fais-nous des dieux, ils ont dit des dieux, des Elohim, qui marcheront. Eux, ils ont mis le verbe au pluriel. Donc, ils pensaient vraiment des dieux. Des dieux qui vont marcher devant nous. Parce que Haïch Moshe, l'homme Moshe, qui nous a fait sortir d'Égypte, nous ne savons pas ce qui est advenu de lui. Il n'est pas là, on ne sait pas. Et si vous écoutez bien ce qu'il dit, alors vous comprenez tout de suite ce qui s'est passé. Ils ont dit que c'est Moshe qui les a sortis d'Égypte. Pas vrai. Le soir du Seder, vous allez dire, vous allez dire cette fameuse phrase, sorti d'Égypte, lo ali des malach, lo ali des shliach, lo ali des saraf. Vous n'êtes pas sorti par l'intervention de cet ange-là ou d'un autre ange ou de quoi que ce soit d'autre. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas rabattre la sortie d'Égypte ni sur un tsunami, ni sur un tremblement de terre, ni sur un changement de dynastie, ni sur la révolution, ni sur la décolonisation, rien du tout. Et là, Akadosh Baruch Hu bichvodo ubatzmo. C'est Hachem qui nous a sortis d'Égypte, lui-même. Il n'a pas pris. Ça aurait été toujours aussi Hachem qui nous est sorti si on avait passé par un malach. Le malach, il aurait fait ce qu'Hachem lui a dit. Mais là, c'était tout à fait spécial. C'est Hachem direct, sans l'intervention d'un malach. Qu'est-ce que ça change? Ça veut dire que ça n'est pas explicable du tout. Un malach, ça pourrait être... un tremblement de terre, c'est un malach. Donc, ça va expliquer comment ils ont pu sortir. Hein? C'était facile, il y a eu tremblement de terre, il y avait bouleversement généralisé. Les Bnei Israël, ils ont profité pour prendre la poudre d'escampot pour sortir. Ou bien il y a quelqu'un qui est venu, il en a organisé la révolution. Non, c'était rien de tout ça. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'explication. Quoi, c'est impossible d'expliquer qu'un peuple est sorti avec, surtout avec les chiffres qui sont donnés, ils sont sortis quoi, en une matinée? Ça n'a pas de sens. Bon. Ça n'a pas de sens parce que c'est Hachem qui nous a sortis. C'est comme si, bon, si on disait que les Bnei Israël, au moment où il fallait sortir, que je vous ai appris, les Bnei Israël, il les a amenés dans un autre monde. Dans cet autre monde, ils sont sortis d'Égypte, quoi, etc. Puis ensuite, ils sont redescendus. Donc, la Haggadah, elle nous raconte ce qu'il y avait avant, ce qu'il y avait après. Et quand il s'agit de zoomer sur le moment où ils sont sortis, tu dis, ben, aucune explication. C'est Hachem, ça veut dire. T'as besoin simplement de dire, c'est inexplicable. Et c'est comme ça, vous croyez, je vous avais dit, quand Noé a été sauvé du déluge. Ça n'a pas tellement de sens de dire que l'arche, elle ne pouvait pas protéger. Hazal raconte la violence, la chaleur, l'épaisseur de tout ce qui est tombé dans ce déluge. C'est pas un petit esquif, là, comme, là, comme on raconte avec un peu de goudron. C'est ça qui va tenir le coup. C'est impossible, ça n'a pas de sens. Pourquoi? Pourquoi ça a marché? Parce que c'est Hachem qui l'a fait sortir. Hachem, il pouvait prendre un esquif, il pouvait prendre, ils auraient pu prendre un, je sais pas moi, un canot gonflable pour sortir. C'est Hachem qui les a pris, donc c'est toujours comme ça. Ces choses-là, ces situations où, dont on a parlé au tout début, avant de commencer de parler à Pessah, on a dit qu'il y a toujours ce phénomène, justement, que on arrive à un sommet, ensuite on retombe. Il y a un moment, petit moment, et puis il y a quelque chose d'autre qui renaît. Vous croyez vraiment que Avraham Avinu, il pouvait sortir de la fournaise? On ne peut pas sortir d'une fournaise vivante. Ça n'existe pas. Pour que ça soit bien clair, Chazal disent que l'ange Gabriel, il est venu et il a dit à Hachem, je vais aller éteindre la fournaise pour sauver Moshe, pour sauver Abraham. Hachem a dit non. Il a dit, Abraham, il est seul dans le monde. Moi, je suis seul. Il convient que le seul, celui qui est seul et unique, s'occupe de celui qui est seul et unique. Je vais aller, moi, le sortir. Pour Hachem, il n'a pas éteint la fournaise. Il n'a pas fabriqué une combinaison spéciale pour avoir venu la sortie. Ça veut dire, on n'en sait rien. C'est inexplicable. Mais ça n'a pas vocation à être expliqué. C'est important de comprendre que ceci n'a pu se produire que parce que c'est inexplicable. Il y a des choses qui sont inexplicables de façon plus... On peut mieux comprendre le problème quand les Bnei Israël sont en exil pour la première fois. C'est-à-dire... Nabucodonosor, il détruit le Beth Amikdash. Et les Bnei Israël sont exilés en Babel. Le clan Israël, il a une chance de sortir vivant de ça. Le clan Israël était entouré, il vivait entièrement autour du Beth Amikdash. Tout tournait autour du Beth Amikdash. Et ils étaient sur leur terre. Il n'y a plus de Beth Amikdash. Comment on prie, comment, qu'est-ce qu'on fait, etc. Rien du tout, on ne sait pas. Et puis ils sont même plus chez eux. Ils sont confrontés à des idolâtres, confrontés à la civilisation babylonienne. Il n'y avait aucune chance qu'ils s'en sortent. C'est Hachem qui les a fait sortir, qui les a permis, leur a permis ultimement de sortir. Il fallait fabriquer Ezra. Ezra dit Chazal. Ezra, on ne le sait même pas, qu'il était tellement grand, Ezra, que si la Torah n'avait pas été donnée par Moshe, elle aurait été donnée par Ezra. Donc Ezra, c'est une espèce de Moshe version numéro 2. On n'a pas l'impression, quand on parle d'Ezra, oh, d'accord, c'est un grand bonhomme, d'accord. Non, Chazal disent, c'est du type Moshe, quoi, quasiment. Il leur a enseigné la Torah à des gens qui avaient tout oublié. Ils savaient même plus lire. Ils savaient plus écrire. On a choisi une nouvelle écriture. L'écriture qu'on a aujourd'hui, c'était pas l'écriture originelle. C'est une écriture qu'ils ont choisie à ce moment-là. Et si vous voulez encore plus, Rabbi Yochanan ben Zakkai, à la destruction du deuxième Beth Amikdash. Alors là, on n'est pas simplement, c'est pas ça. Donc, on a de nouveau plus le Beth Amikdash autour duquel tout tournait. Et où est-ce qu'on est exilé? On n'est pas exilé dans un pays bien précis, les Babylones. On est dispersé dans tout l'Empire romain. C'est ça, les Bnei Israël. C'est les Romains, ils ont dispersé dans le monde. On était partout. Donc il n'y avait plus de communauté, il a tout fallu reconstituer. Qui pouvait penser qu'on pouvait s'en sortir? Il a fallu le génie de Rabbi Yochanan ben Zakkaï pour comprendre que ce qu'il fallait sauver, c'est une toute petite yeshiva avec des gens du Sanhédrin à Yavné. Titus, quand il a proposé à Rabbi Yochanan ben Zakkaï, tu peux choisir trois choses parce que c'est lui qui lui a annoncé qu'il était nommé empereur. Il a dit, tu m'as apporté une bonne nouvelle, tu peux choisir trois choses. Il était sûr qu'il allait choisir je veux devenir citoyen romain. Et il lui dit, je veux ici un médecin pour guérir celui-là, et là je veux Yavne. Des trucs. Il a dû se demander, ce vieillard, il est complètement cinglé. Mais Rabbi Yochanan ben Zakkaï, il a mis en place la structure du clan d'Israël. Lui, il a vécu aussi avec le Beth Amikdash. Il a pensé la structure du Beth Amikdash du clan d'Israël pour jusqu'à aujourd'hui. D'accord? Ce qu'on a, les petits kounim qu'il a fait sur le shofar, sur le loulav, etc., tout ce qu'il a mis en place à Yavne, a sauvé le clan d'Israël. C'était impensable que quelqu'un puisse penser exactement, ah, c'est ça qu'il faut. Et ce n'était pas du tout évident, parce que je crois que vous avez déjà dit que Rabbi Akiva, le grand Rabbi Akiva, qu'est-ce qu'il dit de Rabbi Yochanan ben Zakkaï? Il dit, Mi yegale afar me'enecha. Rabban Yochanan ben Zakkaï. Qui est-ce qui va enlever la poussière de tes yeux, Rabban Yochanan ben Zakkaï? Comment est-ce que tu as pu ne pas demander qu'il lève le siège? Il y avait le siège sur Jérusalem, bien sûr. Bon. Demande-leur qu'ils lèvent le siège. Vous croyez que je peux pas dire ce qu'il en est, mais bon, c'est bien entendu que Rabbi Yochanan ben Zakkaï, il a pensé à ça aussi. Rabbi Akiva, beau être le plus grand maître de la Torah orale, enfin, moi, je comprends. Le raisonnement de Rabbi Yochanan ben Zakkaï, me semble-t-il, c'est que qu'est-ce qui s'est passé? À Yerushalayim, il y avait de quoi soutenir un siège, je crois, de 2 ans. Ils avaient à manger pour 2 ans. Mais il y avait ce qu'on appelle les zélotes. Eux, ils voulaient faire la guerre. Ils voulaient pas. C'est eux qui voulaient pas se soumettre aux Romains. Les Romains étaient plus forts. Il fallait accepter. Les Romains, ça, ils auraient pas. Ils ne nous embêtaient pas vraiment. Ils ne nous auraient pas du tout embêtés, a priori. Si on avait accepté, c'est tout. La Judée, ça n'a aucune importance. Quand il veut, il traverse. Pour aller de l'Égypte à la Syrie, quand il veut, il traverse. C'est tout. Mais eux, ils ne voulaient pas. Alors, ils ont mis le feu à tous les greniers. Donc, les Bnei Israël ne pouvaient plus tenir le siège. C'est pour ça qu'ils ont perdu. Et Rabban Yochanan ben Zakkaï, il s'est dit, si on lève le siège, même si on reconstitue des réserves, etc., ben, ils vont refaire le même coup. Les zélotes, ils vont pas changer d'avis. Donc ils vont pousser à la guerre. Cette fois-ci, les Romains, ils vont nous liquider complètement et on sauvera rien du tout. On sera perdu. Donc, elle dit, il faut sauver ça. Mais même Rabbi Akiva pensait pas comme ça. Il est très sévère. On dit, Mi égalé afar me'enecha, qui va enlever la poussière de tes yeux. Voilà, on s'arrête là. Pessah, kasher, sameach.